Paul Simo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste des droits de l'homme. Vous avez fait partie en fait de l'équipe qui s'est occupée du rapport sur la RDC. Première question, quel est l'intérêt de dire cette vérité maintenant, alors que les relations entre la RDC notamment et le Rwanda s'améliorent, et alors que la situation se stabilise petit à petit en République démocratique du Congo?
Pour la première raison, il faut prendre en compte que pour des pays comme la République démocratique du Congo qui sortent d'une période de conflit intense, et cela a été le cas avec des pays de l'Amérique latine, les pays des Balkans, d'autres pays en Afrique et même en Asie, il se ressent un besoin important de pouvoir gérer et pouvoir composer avec ce passé. Il y a ce besoin de la justice, il y a des griefs qui n'ont pas encore été résolus. Et donc, ce rapport vient comme un outil pour aider le gouvernement et la population de la République démocratique du Congo à agir dans ce sens. En deuxième lieu, pourquoi maintenant? Il faut dire que le rapport, certes, parle de la période entre 1993 et 2003 et des violations qui ont eu lieu pendant cette période. Ça aurait peut-être été différent si ces violations avaient cessé en 2003. Malheureusement, elles continuent dans une certaine mesure, dans certaines parties du pays. Alors il est vraiment le moment de pouvoir tirer la sonnette d'alarme et de dire qu'il est important qu'il y ait un processus pour faire face à cette préoccupation de l'impunité. Et il faut se dire que une paix durable nécessite qu'on aborde, qu'on gère le passé et qu'on puisse construire un avenir qui prend en compte les leçons de ce passé.
Mais il y a également le revers des choses. Est-ce que cela ne risque pas de susciter une grande polémique? Vous avez vu par exemple la réaction d'un pays comme le Rwanda à ce rapport, puisque la presse a beaucoup mis l'accent sur la partie Rwanda dans ce rapport.
Nous devons dire que justement le rapport est sur les événements qui se sont produits pendant une période de 10 ans en République démocratique du Congo. Il est difficile, voire impossible, d'écrire une histoire sur cette période de conflit au Congo sans parler de l'implication régionale. Et certes, le rapport aborde la question, mais cela dit, il s'agit d'un rapport principalement sur ce qui s'est passé sur le territoire du Congo. Le rapport suggère qu'il y a un rôle que pourraient jouer les États de la région, dont certains ont eu à confronter ce même problème, ont eu à adopter leurs propres mécanismes et propres mesures pour pouvoir composer avec le passé. Le rapport suggère qu'ils ont un rôle à jouer et c'est notre vif espoir, justement, qu'après la publication de ce rapport, qu'un processus de dialogue, de coopération et de partenariat, précisément entre ces États, permettra à gérer cette question.
Alors, Paul, l'accent est mis sur ces Hutus qui s'étaient réfugiés en RDC en raison de l'arrivée au pouvoir en 1994 à Kigali de la rébellion du Front patriotique rwandais qui avait mis fin à un génocide ayant fait environ 800 000 morts. On parle de massacres organisés selon en schéma quasi identique, de façon à tuer un maximum de victimes Hutus dans la région de Walikale par les forces rwandaises. Et aujourd'hui, les Nations Unies n'ont pas dit leur dernier mot sur s'il s'agit de génocide ou pas.
Le rapport ne prévoyait pas de rendre de jugement définitif sur des questions d'ordre juridique. Et le rapport est très clair là-dessus. Cela revient à un processus qui d'abord doit passer par une enquête judiciaire, par une poursuite et par un procès. Donc le rapport ne doit pas se prononcer définitivement et c'est précisément pour cela que le rapport ne le fait pas. Il évoque les faits, il fait une analyse de ces faits par rapport au droit international pertinent, les arguments pour, les arguments contre, et le rapport conclut qu'il s'agit d'une question qui devrait être résolue dans un cadre juridique.
La finalité de ce rapport, c'est de dire quoi? C'est de dire que ce qui se passe en ce moment à l'est de la RDC n'est pas dissocié de ce qui s'est passé avant.
Le rapport n'accuse personne et tel n'est pas son objectif. Il ne s'agit pas d'un document de procureur. Cependant, le rapport tire la sonnette d'alarme sur cette préoccupation de l'impunité qui continue et qui contribue à l'instabilité et à l'insécurité en République démocratique du Congo, au moins dans certaines parties du pays. Et le rapport identifie certaines voies de solution. Il y a tout un chapitre du rapport qui est consacré à cela. Parmi ces solutions, on évoque nommément la question de la mise en place d'une éventuelle juridiction hybride mixte congolais internationale, l'idée d'une commission nationale sur la vérité et la réconciliation qui permettra au pays d'avoir une réflexion approfondie sur les conséquences du conflit. Il y a un plaidoyer pour un effort plus renforcé dans le domaine de la réparation des victimes. Ensuite, l'assainissement des institutions, surtout des services de sécurité et des forces armées, qui constituent une épine dans le processus vers la restauration de l'état de droit et dans le processus de la justice, parce que les services de sécurité ainsi que l'armée n'ont pas été assainis après le conflit armé. Ce qui fait que les personnes qui s'y trouvent, pas tous, mais certaines personnes qui s'y trouvent, ont commis des exactions dans le passé et devraient progressivement cesser d'être dans les forces de l'armée, des services de sécurité du pays.
Paul Timot, je vous remercie de ces entretiens.
Merci beaucoup.